C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Les Philippines font partie des pays les plus impactés par les conséquences des changements climatiques. C'est le troisième pays le plus touché par les catastrophes naturelles dans le monde. Localisé le long de la ceinture des typhons dans le Pacifique, les presque 100 millions de Philippins subissent en moyenne 20 cyclones par an, dont la force et l'impact ne cessent d'augmenter. Nous avons tous à l'esprit les dégâts considérables provoqués par le supercyclone Ayan en novembre 2013, qui avait fait plus de 10 000 morts. Mais depuis, le pays a connu Ruby en 2014, Nona en 2015 et enfin Aima puis Nina en 2016. Comment le pays fait face à ces catastrophes naturelles? Qu'est-ce qui a changé depuis le terrible supercyclone Ayan? Et où en est la reconstruction alors que le pays va devoir se débrouiller sans l'aide internationale parvenue à son terme? C'est un reportage d'Igor Strauss.
So right now we are at Bote Beach in Barangay Bote.
Là, on est à la plage de Bote dans le quartier de Barangay. Bote sur l'île de Catanduanes. Avant, c'était une très jolie plage, un endroit vraiment cool. Il y avait plein de palmiers et de cocotiers. Et puis le cyclone est arrivé. C'est ici qu'il a frappé en premier. Il est arrivé par ces rochers là-bas, qui ont la forme d'un crocodile, et par la petite île à côté qu'on appelle l'île Tortue, puisqu'elle ressemble à une tortue. Et après le passage du cyclone Nina, tous les cocotiers ont été détruits. Il faudra des années pour que ça redevienne comme avant.
En fait, c'est par ici que Nina est arrivée, c'est ça?
Yeah, so Nina entered from the southeastern part of Catanduanes.
Oui, Nina est arrivée par le sud-est de l'île de Catanduanes. Et le premier endroit qui l'a touchée, c'est cette plage et le barangay Bote qui est juste à côté. Ici, c'était la porte d'entrée du cyclone Nina.
So it's like the entrance for Typhoon Nina in Catanduanes.
Le 25 décembre 2016, le cyclone Nina frappait l'est des Philippines. La petite île de Catanduanes, avec ses quelques 250 000 habitants, a été la première île balayée par des vents allant à plus de 185 km/h. Aujourd'hui, la plage de Bote a repris ses allures de carte postale, même si les troncs de cocotiers en arrière-plan rappellent encore la violence du cyclone.
I'm Ray Torraso Jr.
Je m'appelle Siri Torraso Jr. Je suis le chef du barangay Bote Bato à Catanduanes.
Donc parlez-moi un petit peu des conséquences du cyclone Nina sur l'ensemble du barangay ici.
Ang epekto dito sir sa aming barangay, una sa lahat yung pagkabuhayan.
Le cyclone Nina a fait des ravages ici. Il a tout détruit, les champs, les bateaux, et près de 2 mois après, on ne peut toujours pas aller pêcher, car la mer est encore très mauvaise. Vous savez, moi j'ai 26 ans, mais je n'avais encore jamais vu de cyclone aussi puissant. Ça n'a duré que 2 heures, mais il y a vraiment eu beaucoup de dégâts. L'école a été détruite, et toutes les maisons là-bas également. Même ma maison à moi, qui est en ciment, bougeait. C'était terrible. D'habitude, les cyclones durent plus longtemps, mais ils sont moins violents.
Tumama sa lupa, laki na ng epekto.
À quoi on pense pendant ces 2 heures justement? Qu'est-ce qu'on se dit?
Habang paparating pa lang ang bagyo.
J'avais 2 choses en tête. D'abord, avant le cyclone, comme je suis le chef du barangay et que j'ai une grande responsabilité, j'étais très inquiet pour l'ensemble du barangay, des dégâts que ça allait provoquer. Mais on est parvenu à faire évacuer tout le quartier. Ensuite, j'étais très inquiet pour ma famille. On allait être frappé en premier par un cyclone et cela m'angoissait pour les miens. Et quand le cyclone frappe, on se met à penser à Dieu. On prie pour que cela s'arrête le plus rapidement possible parce qu'on est tous effrayés.
Quelle est la procédure d'évacuation? Est-ce que vous avez été formé par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une procédure particulière à suivre? Comment ça se passe?
Oui, il y a une procédure. Nous, en tant que représentants du barangay, du quartier, on a été formés, on a assisté à des séminaires. Il y a un programme d'évacuation qu'on appelle le programme de réponse rapide, réhabilitation et préparation. Ce sont les 3 choses sur lesquelles on se focalise en cas de cyclone. Mais nous, on avait un problème. Le quartier est grand et peuplé et on n'avait que 2 centres d'évacuation, le centre de santé et la salle des fêtes. Du coup, on a demandé à tous ceux qui avaient des maisons en ciment, avec de bonnes structures, d'accueillir ceux qui vivent dans des maisons en bois. On a ainsi répertorié toutes les maisons solides et on a fait une liste de gens à accueillir pour chacune d'elles, pour limiter les dégâts et les risques.
Mais du coup, avant, ça se passait comment ?
Avant, quand il n'y avait pas de programme d'évacuation, les gens étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas quoi faire et du coup, c'était la panique. Chacun cherchait à protéger sa famille et ses biens. Maintenant, avec le programme, les gens évacuent quand il le faut, c'est-à-dire avant que le cyclone ne commence. Parce qu'avant, ils évacuaient quand leur maison était détruite, en plein cyclone, et c'était très dangereux.
First evacuation, sinabi, lahat nasa evacuation na, nasa safe na sila lahat.
À quelques kilomètres de là, un autre petit village de pêcheurs, bloqué entre mer et montagne avec une route difficile, voire impraticable pendant la saison des pluies, le village est particulièrement enclavé.
I am Shala Marisi Torazo. I'm a barangay kagawad here in the barangay Pananaoga, municipality of Batasun.
Je m'appelle Shala Marie et j'habite ici dans le barangay Pananaogan. Les cyclones comme Nina récemment nous font beaucoup de mal. Ils sont très douloureux pour nous parce que nous sommes vraiment face à la mer et du coup on a très peur des vagues ou des tsunamis qui les accompagnent. Heureusement, pendant le cyclone Nina, il n'y a pas eu de tsunami. Seules les maisons des plus pauvres ont été détruites.
Poor families were really affected by the typhoon Nina.
Et les bateaux, ils ont été détruits aussi ou pas?
Only one boat destroyed.
Il n'y a eu qu'un seul bateau détruit parce que la municipalité de Bateau et les responsables du barangay ici ont bien géré les choses. On s'est tous entraidés pour déplacer les bateaux dans un endroit plus sûr.
We help each other to locate the boat for the safer place.
Ah, donc vous saviez que le cyclone allait arriver et vous avez pu protéger les bateaux.
Yes, sir. We heard and we.
Oui, on l'a vu à la télé, on l'a entendu à la radio, donc on était au courant. On savait tout ce qui se passait dans l'île de Catanduanes.
So we gathered information what happened here in the province of Catanduanes.
Grâce au système d'alerte créé suite au cyclone Haiyan de 2013, il n'y aurait eu que 7 victimes lors du cyclone Nina de décembre 2016, selon les autorités. Mais les dégâts matériels restent énormes, surtout pour l'agriculture.
Je m'appelle Edna Timendez et je suis agricultrice ici à Pananaogan. Avec mon mari, ça fait 26 ans que nous cultivons du riz et des noix de coco.
Et alors, quelles ont été les conséquences du cyclone Nina sur vos cultures?
Quand le cyclone Nina est arrivé, on venait de planter notre riz et tout a été détruit. Un grand nombre de nos cocotiers a été également détruit. Et comme mon mari ne peut plus pêcher depuis le cyclone, c'est dur pour nous.
Et aujourd'hui, près de 2 mois après le cyclone, est-ce que ça s'est un peu arrangé?
Non, c'est toujours dur depuis Nina, parce qu'on a perdu nos récoltes, notre argent et nos investissements. Tout a été détruit. Donc on est dans une situation délicate.
Alors comment vous faites pour vivre du coup?
On vit avec nos réserves de noix de coco, avec la récolte d'avant le cyclone Nina. Et puis on demande de l'aide à notre famille et à nos enfants.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez à nouveau bien vivre?
Pour continuer à vivre correctement, j'ai besoin d'investissements, et pas seulement dans l'agriculture. Avec mon mari, on ne veut plus dépendre de nos proches ou de nos enfants. On veut travailler et ne pas dépendre de l'aide. Mais pour cela, il faut que l'on puisse investir pour relancer nos cultures notamment. C'est le seul moyen de retrouver une vie normale.
C'est la première fois que vous êtes affecté par un cyclone ?
Non. Il
y en a eu beaucoup ici sur l'île de Catanduanes parce que nous nous trouvons sur la ceinture des cyclones. Donc on est habitué à avoir des cyclones ou des tempêtes tropicales. Ça n'a rien de nouveau pour nous.
Et vous avez peur que l'histoire se répète encore et encore?
Non, c'est fini, nous n'avons plus peur des cyclones, même des grands. Maintenant, on sait que tous les 10 ans, un cyclone viendra frapper notre île. C'est comme ça, on doit l'accepter, se préparer et ne plus avoir peur.
Salamat.
Salamat.
Salamat tempo.
Chaque année aux Philippines, les cyclones ravagent les plantations de riz ou de cocotiers et font craindre le pire pour la sécurité alimentaire. Selon une source gouvernementale, le cyclone Nina aurait causé quelques 100 millions de dollars de pertes agricoles. Mais alors, quelles sont les alternatives ? Direction l'île de Samar, durement touchée par le cyclone Ayan il y a 4 ans, à une cinquantaine de kilomètres du port de Giwan, l'ONG française Acted soutient des agriculteurs comme Ferdinand.
Hello, Mr.
Hi, sir.
How are you?
Fine.
On s'est rendu compte avec le cyclone Ayan que les changements climatiques étaient une réalité aux Philippines. Avant, on avait des saisons normales, on savait quoi planter à quel moment et les semences donnaient toujours quelque chose. Mais depuis le cyclone Ayan, tout a changé. On ne sait plus quelles graines planter parce que les conditions météo ont changé. Maintenant, on a des températures beaucoup plus élevées en été et une saison des pluies qui varie. Du coup, on ne sait plus quoi planter.
Mais alors, comment vous avez sélectionné les plantes qui résistaient justement aux variations climatiques ?
On a été formé par des techniciens pour savoir quel type de semences résistent aux fortes chaleurs et celles qui résistent aux pluies diluviennes. C'est comme ça qu'on a appris qu'en cas de forte chaleur, il est bien de planter des aubergines ou des courges, mais que pendant la saison des pluies, il vaut mieux planter des tomates, par exemple. Et avec cette technique, on obtient une bonne production, on perd moins de récoltes en raison du climat. Et puis ça nous permet également de faire des engrais naturels. Donc, depuis qu'on applique ces techniques, on est vraiment satisfait.
Concoction organic fertilizer ng among ginagamit.
Alors là, on est au milieu de vos champs, justement. Donc expliquez-nous ce que vous avez planté. Là, on est quoi ? On est entre la saison des pluies et l'été, c'est ça ? Et la saison sèche. Donc qu'est-ce qui pousse en ce moment ?
Alors ici, on a planté des courges. Là, c'est du chou et ici, du melon. Et puis là-bas, vous avez les haricots et les carottes. On a planté tous ces légumes parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut planter à la saison chaude.
Thibaut Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur pays pour l'ONG Acted, donc ici aux Philippines. Et vous soutenez justement, enfin l'ONG Acted soutient cette nouvelle façon, on va dire, de produire. Donc expliquez-nous un peu la philosophie et comment est né ce projet finalement.
En fait, ce projet est né après le typhon Ayan. C'est donc une approche qu'on a mis en place, qui est expérimentée sur certains pays dans le monde. Et on a voulu l'expérimenter ici aux Philippines. Donc on soutient grosso modo 5000 fermiers. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une approche marché, dans le sens où il y a 2 millions d'arbres qui ont été ravagés et détruits par le typhon Ayan. Et avant, sur cette zone-là, la source de revenus des populations locales était principalement le cocotier. Et un cocotier, il lui faut 7 ans pour être à nouveau productif. Donc nous, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est un projet où les exploitants agricoles, parce que ça représente quand même 90% de la population ici, en termes de sources de revenus. Donc nous, notre projet, c'était on ne peut pas attendre 7 ans. On ne va pas recommencer avec le cocotier, d'autant plus que tous les ans, il y a des typhons qui touchent cette zone géographique. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse soutenir les exploitants agricoles pour développer des sources alternatives de revenus et des sources de production. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle les services locaux d'approvisionnement. C'est une sorte de coopérative agricole avec des personnes expertes aussi bien dans la production que dans la revente et qui sont en fait un intermédiaire et un tremplin entre les producteurs et les grossistes. Et en même temps, on a accompagné donc les exploitants agricoles à changer leur production. Donc on a créé des jardins en fait où ils ont expérimenté au niveau de chaque municipalité, tous ensemble, des nouvelles semences, des nouveaux types de production comme la tomate par exemple. La tomate ne se faisait absolument pas du tout ici sur cette région. Donc ils ont expérimenté ça et ensuite ils ont vu certaines ont marché, certaines n'ont pas marché. En fonction de l'acidité des sols et du pH, ils se sont adaptés et ils ont pris un certain nombre de variétés pour tout simplement les produire dans leur propre champ. En parallèle de ça, on les a appuyés sur tout ce qui est accès à des services de microfinance pour qu'ils puissent grossir, qu'ils puissent avoir des prêts, qu'ils puissent avoir une source de revenus pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir une meilleure productivité, une meilleure production par la suite. Et bien entendu, la dernière étape, c'est bien de produire, c'est bien d'avoir une meilleure productivité, mais il faut vendre. Et en fait, les grossistes ici achetaient tout à l'extérieur de la région. Le poulet, par exemple, à Guiwan, maintenant, qu'on trouve, c'est du poulet qui est produit ici. C'est un circuit court et l'argent ne part pas de la région. Et du coup, ça permet aussi un meilleur réinvestissement et un investissement en fait dans les circuits économiques locaux.
Donc on n'est plus dans l'urgence, on est dans la gestion à long terme finalement.
On est dans la réponse à l'urgence, mais sur du long terme. Parce qu'on sait qu'hélas, il y a 20 typhons par an aux Philippines. Donc on sait que c'est quelque chose qui arrive régulièrement et particulièrement plus depuis 2012. Pas par rapport au nombre de typhons, mais par rapport à l'intensité des typhons. Les typhons sont beaucoup plus puissants et du coup font beaucoup plus de dégâts.
Merci beaucoup.
Merci.
Autre souci majeur avec la répétition des cyclones, l'habitat. De très nombreuses familles pauvres vivent dans des maisons fragiles faites de briques et de brocs. Ainsi, le cyclone Ayan a fait des millions de sans-abri. Depuis, entre Tacloban et Guiwan, on voit construire de nouveaux quartiers faits de petites maisons de plus ou moins bonne qualité. Ils ont été financés par l'État philippin, les Nations Unies ou les nombreuses ONG présentes sur place après la catastrophe. Mais la demande de nouveaux logements est encore très grande. Lors de sa venue aux Philippines, en février 2015, le président François Hollande a donc fait un don d'1,5 million d'euros au nom de la France à l'Agence française de développement pour la construction de maisons à Guiwan. C'est l'ONG Acted qui a été choisie pour réaliser le projet. Un nouveau quartier va donc sortir de terre à 2 km de la mer pour reloger les habitants de deux zones inconstructibles et dangereuses. En tout, 329 maisons vont être construites, 126 grâce aux dons de la France, le reste grâce au gouvernement philippin. Visite de chantier avec Rino Gamnong, le responsable du projet chez Acted.
Ça sent encore le ciment tout neuf là.
Smell good. Ça sent bon. Donc ici, on a une pièce de 18 mètres carrés. Et comme ce sont des maisons à étage, elles font 36 mètres carrés.
It's make 36 square meters.
Donc quand on rentre, il y a une petite porte, c'est tout simple, il y a une petite cuisine en face. À droite, une autre porte avec un toilette et un lavabo. Et puis un petit escalier en bois qui mène à un étage. Ça, c'est fait pour combien de personnes ?
This is good for more than five family members or person.
Ici, on peut loger une famille de plus de 5 personnes. On a suivi les standards internationaux qui disent que chaque personne doit bénéficier d'au moins 3 mètres carrés et demi.
C'est bien, hein, c'est du solide.
We're just following the standard of the construction.
Oui, et là encore, on a suivi les standards pour la construction. On se procure du matériel de bonne qualité et on s'assure que tout soit bien fait pour avoir des maisons de qualité.
And the construction is in good quality.
Et donc ça, c'est censé résister aux cyclones et aux forts vents.
Yeah. This is a type of resilient shelter.
Oui, c'est une maison résistante aux cyclones pour que les habitants puissent vivre en sécurité et qu'ils soient protégés si un nouveau cyclone arrive.
On peut monter ? Donc c'est un escalier, les premières marches en béton, puis après c'est du bois. C'est très bien fait. Ouais. Heureusement, j'ai mis mon casque de protection de chantier. Ouais, c'est grand, hein. Donc là, on est à l'étage, quatre fenêtres, c'est bien, bien aéré, et puis il y a même une petite terrasse.
Oui, chaque maison possède son petit balcon à l'étage pour que les bénéficiaires profitent de la vue sur le site.
Quand on construit des abris comme ça, c'est quoi les principales difficultés ?
La première grosse difficulté a été de trouver le site de relogement. Ça nous a pris plus d'un an pour trouver ce site ici à Guiwan, parce que certains sites qu'on nous proposait étaient inaccessibles. Et puis, quand on a commencé les travaux, on a eu des problèmes avec la réception du matériel. Donc voilà les problèmes qu'on a eus, mais on a trouvé des solutions à chaque fois.
Come up with that problem.
Là, ça sera fini quand ?
End of March.
Ce sera fini fin mars 2017.
Chaque maison coûte 6 000 $. On en trouve également à moindre coût, mais de mauvaise qualité. Un marché, un centre de santé et un terrain de basket seront également construits dans ce nouveau quartier pour le rendre attrayant et éviter que les gens ne repartent dans les zones inconstructibles, comme cela a parfois été le cas.
So where are we now?
So we are same right in Barangay Hollywood GT. So we're going to ride what we call balsa.
Donc c'est un petit radeau en bois parce qu'il faut qu'on aille donc visiter une petite maison qui est en face sur pilotis mais au milieu de l'eau. Et on doit emprunter ce petit radeau, c'est ça? Vous voulez nous faire tomber à l'eau?
Okay. Mario Ramos.
Je m'appelle Mario Ramos, je suis marié, j'ai 6 enfants qui vivent avec moi. Pour vivre, j'ai mon salaire de chauffeur de pédicab, les taxis vélo et je vends également des bananes au marché. Mon fils, lui, est pêcheur, mais ne trouve pas de poisson tous les jours, donc voilà comment on vit.
Alors là, monsieur, on est chez vous, dans votre maison sur pilotis. Ça fait longtemps que vous habitez cette maison ?
Ça fait maintenant 7 ans.
Mais alors pourquoi vous vous êtes installé ici sur l'eau ?
Je ne trouvais pas d'endroit où m'installer, même plus loin dans les terres, je n'ai pas trouvé de place. Et c'est mon beau-frère qui habite juste en face qui m'a suggéré de m'installer ici. Mais ce n'est pas un bon endroit. Je suis toujours inquiet dès qu'il y a du vent ou de la pluie. Et surtout, je crains les cyclones. Mais bon, c'est comme ça. Et je n'avais aucun autre endroit où m'installer.
On comprend que vous craignez les cyclones, mais justement, pendant le cyclone Haiyan, elle a tenu votre maison ?
Pendant le cyclone Haiyan, la maison a été totalement détruite. Heureusement, on avait évacué les enfants vers l'école élémentaire. J'ai reconstruit la maison, mais même pas un an après, le cyclone Ruby est arrivé et a tout détruit de nouveau. Donc je l'ai reconstruite encore une fois, mais je ne suis pas rassuré. Dès qu'il y a du vent, ça m'inquiète.
Du coup, j'imagine que vous êtes contente de pouvoir déménager. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir bientôt une nouvelle maison ?
Oui, je suis très content de déménager dans une maison sûre. Actuellement, on est tous inquiets quand il y a du vent. Et quand il pleut, l'eau rentre dans la maison. Donc on est très content de déménager. Mes enfants vont enfin être en sécurité.
Vous les avez visités, les nouvelles maisons ?
Oui, je l'ai déjà visité 3 fois et j'ai hâte d'y emménager. Normalement, c'est prévu pour avril.
Le dernier volet de la réhabilitation post-Haiyan s'appelle le projet FATS pour Philippines Approach Total Sanitation. Voulu et financé par l'UNICEF, ce programme d'$1 million sur 15 mois est porté par l'État philippin. Les 2 premières étapes ont été réalisées. Désormais, chaque foyer est censé avoir ses propres toilettes et il n'y a plus de défécation à l'air libre. Mais la 3e étape concernant l'accès à l'eau potable et le ramassage des ordures est beaucoup plus difficile à mettre en place pour des petites municipalités sans ressources. D'où cette question, alors que l'aide internationale touche à sa fin et que les ONG se retirent les unes après les autres des zones touchées par le cyclone Haiyan, les villes comme Giwan sont-elles prêtes à gérer seules la situation ? Rectito Melgades, coordinateur de la réhabilitation à la municipalité de Giwan.
Je crois que grâce au soutien de l'aide internationale et des ONG qui ont appuyé la municipalité et formé le gouvernement local, nous avons désormais les capacités et les connaissances pour faire face à un nouveau cyclone. Nous sommes beaucoup mieux préparés en cas de nouvelle catastrophe et avec l'aide de l'État, nous pourrons y remédier.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ?
Premièrement, désormais, nous avons tout l'équipement nécessaire pour répondre à une catastrophe. Deuxièmement, nos communautés sont beaucoup mieux préparées si un désastre devait survenir. Grâce à l'appui des ONG et des Nations Unies, nous avons fait des exercices de simulation de catastrophe. Nous avons formé la population à utiliser le matériel. Donc, en continuant à entraîner la population, on espère qu'on pourra faire face à un nouveau cyclone ou toute autre catastrophe.
Trainings conducted to these communities will serve them best.
Et pourtant, quand on se balade dans Guyane, on voit des maisons faites de briques et de brocs.
au bord de l'eau, alors qu'on sait que dans la loi philippine, il faut construire à 40 mètres du bord, normalement. Est-ce que ça ne risque pas de reproduire les mêmes effets ?
Oui, c'est vrai que nous avons encore des quartiers bâtis dans des zones non constructibles. C'est ainsi que les avait nommés l'ancien président Aquino. On essaie donc de se préparer à les faire déménager, mais nous n'avons pas suffisamment de place et de maisons pour l'instant. Il nous manque actuellement près de 600 maisons pour pouvoir reloger tous les gens qui habitent encore près de la côte. C'est l'un des plus grands défis que doit relever le gouvernement local.
Est-ce que le traumatisme du cyclone Haiyan est encore présent dans l'esprit de la population?
Yes, it's still very fresh in the minds of our people and
oui, tout cela est encore très frais dans la tête des gens. Et on espère qu'ils vont garder cela à l'esprit et surtout ne pas être complaisants. Parce que certains nous disent que ça y est, le cyclone est passé et donc on ne risque plus rien. D'autres nous disent que le prochain cyclone aura lieu dans 100 ans. Donc on doit répéter que cette situation est devenue la norme. Il faut donc être préparé.
Un reportage d'Igor Strauss réalisé par Ludivine Amado. N'hésitez pas à nous contacter par mail cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux hashtag cestpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Nathalie.